Bonjour, shalom, assalam alaikum, good morning, guten tag. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio en cette journée du jeudi 23 mars 2023. Et nous sommes encore plus heureux parce que nous avons compté sur vous, vous qui êtes très nombreux à nous écouter un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. Nous saluons les techniciens qui réalisent l'émission, c'est le duo Vitogbe Kokou Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha. Sur Canal FM Alomé ici, sur Radio Lumière à Anéro, sur Radio L'Appel, la voix du plateau à Takpamé, sur Central FM à Sokodé, sur Sama FM à Baga, sur Radio Daoul à Bassa, sur Radio Courtoisie à Dapon, mais également tous les canaux et autres médias numériques qui transportent nos voix jusqu'auprès de chez vous un peu partout. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlons tout simplement de l'homme togolais. Comment le Togolais, la Togolaise, se sent-il ou se sent-elle dans sa peau? Quelles sont les contraintes, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour? Et quelles sont les opportunités que nous nous ouvrons, que nous nous offrons, et l'État, et les bonnes volontés, et nous-mêmes individus, hein, pour aller chaque jour de l'avant? C'est de cela dont nous allons débattre, tout en nous inspirant de cette phrase de Joe de Sana qui nous enseigne que le respect de soi, c'est se regarder et être conscient des étapes que l'on doit franchir pour devenir la personne que l'on souhaite être. Encore une fois, le respect de soi, c'est se regarder et être conscient des étapes que l'on doit franchir pour devenir la personne que l'on souhaite être. Eh bien, c'est parti avec autour de nous et l'homme Kossi Atichogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous les confrères et bonjour Canal FM.
Magloa Teko Kenvi de Flambeau des Démocrates. Bonjour.
Bonjour à toi Sass Gaou, bonjour confrère l'homme, bonjour Canal FM.
Nous attendons incessamment un troisième confrère, mais nous avons déjà deux amis qui sont à nos côtés. Ils nous viennent du Rotary Club Lomé Zénith. Nous avons certainement entendu parler une fois de Rotary. La preuve, le club La Presse, nous recevons assez régulièrement les membres et dirigeants de Rotary. Aujourd'hui, c'est deux personnes qui nous font l'honneur. Hakim Barboza, bonjour.
Oui, bonjour Sass. Bonjour aux auditeurs et Canal FM.
Vous êtes le président 2022-2023 du Rotary Club Lomé Zénith.
Oui, c'est ça.
Avec à vos côtés, William Meachi, bonjour.
Bonjour, Sass.
Vous êtes le immediate past president pour dire que c'est vous qui avez passé le témoin à Hakim, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Merci. Alors, pédagogie oblige. Vous êtes membre du Rotary Club Lomé Zénith. Question toute simple, président en exercice Barboza.
Oui.
Le Rotary, c'est quoi?
Le Rotary, c'est un réseau mondial de plus d'un million 400 membres, décideurs, solidaires qui voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Qu'il s'agisse de l'alphabétisation, de la paix, l'eau, santé, nous travaillons avec détermination pour améliorer les conditions de vie dans le monde. Et nous honorons nos engagements. Nous apportons le bien-être aux nécessiteux.
Je n'en doute pas. Un million de par le monde et au Togo, vous seriez combien?
Je crois qu'on est plus de 800, 900 membres.
Merci. Alors, le Rotary, est-ce que c'est un club? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une ONG? Ou, comme certains se le demandent des fois, est-ce que c'est une société secrète?
Non, le Rotary Club n'est pas une société secrète. Nos réunions sont ouvertes. C'est ouvert à tout le monde. Si c'était secrète, ça allait être fermé. Nous, par exemple, nous faisons nos réunions à Sakawa. Les vendredis à Sakawa à 19h.
Donc, vos réunions sont ouvertes. Vous-même, oui. Vous présentez à visage découvert comme vous le faites dans ce studio.
Oui.
Alors, l'ami William Meyati, rebonjour.
Oui, bonjour.
Qui peut-être ou bien comment devient-on membre d'un club Rotary?
Merci, Sas. Alors, pour être un Rotarien, déjà, il faut comprendre que vous devez, avant tout, aimer aider l'autrui.
Aimer aider l'autrui.
Voilà. Alors, donc, déjà, nos réunions, comme l'a dit le président, nous nous réunissons, nous, à Sarakawa, chaque deuxième et quatrième vendredi du mois, à 19h30. Mm-hmm. Et donc, déjà, les membres peuvent inviter leurs connaissances. Donc, on vous invite à venir à la réunion. Vous voyez un peu comment cela se passe. Mm-hmm. Et lorsque vous êtes intéressé, vous marquez votre intérêt à la chose.
Oui.
Et donc, lorsque nous vous étudions, votre motivation. Parce qu'il faut être motivé avant de vouloir être membre du club Rotary.
Parce qu'il s'agira d'aider l'autre.
Exactement. Mm-hmm. Nous ne fonçons pas, mais vous devez être motivé à aider l'autre. Mm-hmm. Voilà. Donc, lorsque vous venez aux réunions, que vous êtes intéressé, là, nous pouvons passer le cap de l'adhésion.
Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement en aidant l'autre? C'est vrai que le président Barbosa en a parlé maintenant. Si lui-même ou bien vous, si vous pouvez nous rappeler ce que vous faites concrètement en aidant l'autre.
Ok. Alors, nous avons des axes stratégiques sur lesquels nous marchons. Comme il a dit notamment, la santé de la mère et de l'enfant, la paix, la résolution des conflits, l'éducation, l'alphabétisation, etc. Alors, nous prenons dans tous les domaines les besoins, nous recensons les besoins des communautés. Alors, quand nous les recensons, nous voyons le réel besoin qu'il y a dans ces communautés et nous essayons alors d'apporter notre soutien à ces communautés-là. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, en février, oui. Nous avons eu à faire des dons de lits médicalisés au niveau du centre de santé de Pessy et de Agovoudou. Voilà un peu. Donc, nous essayons de voir un peu les populations les plus nécessiteuses et nous essayons de leur apporter notre soutien. Et donc, c'est un soutien qui se fait de par les membres du club.
Merci. Voilà. Le Rotary Club, Lomé Zénith, vous existez déjà, ça fait 20 ans, président Barbosa.
Oui, c'est ça.
Alors, si je vous demandais de nous dresser très rapidement le bilan des 20 ans de votre club.
On a eu à faire pendant les 20 ans une soixantaine d'actions. Mm-hmm. De Lomé à Tandouaré. On a eu à faire des forages. On a eu à réhabiliter des dispensaires, des CMS. On a eu à faire des forages, comme je l'ai tantôt dit. Mm-hmm. Des dons en vivres aux orphelinats. On a même eu à former des médecins. Par exemple, à Brunei-Nantes-Togo. C'est nous qui finançons les opérations de
humanitaires. Nous en parlons aussi de temps en temps à Canal FM.
Oui. Mm-hmm. La polio. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est les Rotariens qui financent les vaccins de la polio. Mm-hmm.
Cette maladie vraiment handicapante pour les petits-enfants.
Voilà.
Alors, en 20 ans, beaucoup de choses que vous essayez de faire. Mais présent, sortant, Meyati, les besoins sont immenses dans le champ, ici du Togo d'ailleurs. Est-ce en 20 ans, est-ce que vous avez la légitime pensée d'être satisfait de votre bilan? Alors, au Rotary Club Zénith.
Merci. Je vais ratisser un peu plus large. En ce sens que nous ne sommes pas que le seul club au Togo. Nous sommes 18, notamment, et donc 14 à Lomé ici. Mmh. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas dire que nous avons comblé toutes les attentes de toute la population. Mais je pense que nous avons eu à apporter notre pierre à l'édifice, notamment de par ces soixantaines d'actions que nous avons eu à faire. Mmh. Donc, c'est un bilan assez satisfaisant parce que nous avons quand même, ne serait-ce que pour une seule vie, nous avons pu quand même la changer. Mm-hmm. Déjà, le fait de pouvoir dire qu'aujourd'hui, de par nos actions multiples, nous avons pu quand même changer le quotidien d'une frange de la population, je pense que nous pouvons être satisfaits de notre bilan.
Eh bien, Hakim Barbosa, vous êtes le président en exercice, hein, jusqu'à le président en exercice de Rotary Club Lomé Zénith. Quelles sont les perspectives que vous vous dressez pour les 20 ans à venir?
La perspective, c'est de tripler au minimum le volume de nos projets réalisés, tripler aussi la population à servir par nos actions. Avoir au niveau de leadership international plus le Togolais. Donc c'est à peu près ce que nous
recruter davantage, voilà. De membres, si je peux parler ainsi, mobiliser, oui, davantage de ressources, oui, ici bien au Togo qu'ailleurs.
Et pousser ceux qui sont là à intégrer plus la ligne rotarienne, en fait, internationalement.
Et que les Togolais puissent exceller dans le Rotary international.
Oui. Ne serait-ce que l'année prochaine, le prochain gouverneur qui va coiffer notre district vient de notre club.
Votre club
Rotary Zénith, oui.
Merci.
Notre district est composé du Togo, du Bénin et du Niger.
C'est un Togolais qui est le gouverneur
de ces trois pays. Il vient de notre club.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite, de bonne chance, parce qu'au-delà de votre club, c'est le Togo. Chaque fois qu'un Togolais, une Togolaise brille quelque part, nous, au club de la presse, nous, en tout cas la presse togolaise, nous en sommes heureux. Eh bien, alors, pour clore provisoirement cet entretien, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui nous écoutent, qu'il soit rotarien ou non? Président Barbosa.
C'est de franchir le pas, de nous côtoyer. Un message à ceux qui veulent changer la vie de nécessiteux, de franchir ce pas, de venir à nos réunions et de nous aider à servir la communauté.
Merci à tous ceux qui sont intéressés de venir grossir vos rangs. Mais président Meachi, une question qui nous arrive. Demande, il semble qu'il faut être vraiment riche et peut-être gros comme vous pour être membre du Rotary.
Merci Sass. Je vais dire qu'il ne s'agit pas d'être riche. Comme l'a dit le président Hakim, c'est une association de professionnels. Quand on dit professionnel, ça veut dire que ce n'est pas forcément des salariés, mais il faudrait quand même avoir
un métier,
de pouvoir quand même avoir de quoi subvenir à ses besoins et penser surtout que vous pouvez aider, ou bien quelque part il y a des gens qui sont moins nantis que vous, pas riches, c'est-à-dire que le peu que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour aider d'autres plus nécessiteux. Donc il ne s'agit pas d'être riche pour faire partie du Rotary. Je ne suis pas riche, mais je fais partie du Rotary.
Merci. Voilà. Une dernière question, président Barbosa. Quelqu'un voudrait savoir quelle est l'activité que votre club a en cours actuellement?
Actuellement, nous sommes en train de... On a un projet. La réhabilitation d'un dispensaire à Nero.
À Nero.
Oui.
OK.
Et en cours de projet, un forage aussi.
Où ça?
À Nero aussi.
À Nero encore. Oui. Merci beaucoup. Sinon, pour les forages, je connais beaucoup de localités qui ne font qu'en demander.
Oui.
Après l'émission, on va s'approcher.
Par exemple, ce samedi, on aura à faire des dons à un orphelinat.
À
Zangira. À Zangira. Voilà.
Merci. Bonne journée à vous. Beaucoup de succès à vous-même, à votre club, à tous les Rotariens de par le monde. Merci, nous revenons sur le studio avec les deux chefs du jeudi qui sont là. Commençons par le rouleau, c'est-à-dire le chef Kabier de la Bina, Jean Legrand Polorini, bonjour.
Oui, bonjour Sass, bonjour confrères en studio, bonjour à Canal FM.
C'est Canal D. Et puis maintenant, de Oulo, allons au Tchadjo, le chef Kabier de Yadé Bohou, Michel Tchadja, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrères et puis surtout bonjour Canal FM.
Merci, nous l'avons dit. Aujourd'hui, quand je parcours vos journaux, le sujet qu'on retient, c'est l'homme togolais, la femme togolaise. Comment se sent-il? Comment se sent-elle aujourd'hui? Est-ce que nous sommes heureux? Quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Quels sont les efforts? Quelles sont les opportunités que nous offrons? Que ce soit l'État, que ce soit les bonnes volontés comme nos amis de Rotary, ou bien nous-mêmes individuellement, quelles sont les chances que nous nous donnons pour que demain soit meilleur à aujourd'hui? Voilà ce dont nous allons débattre. Mais commençons par deux journées internationales ou mondiales. Aujourd'hui, 23 mars, c'est la journée mondiale ou internationale de la météorologie ou de l'environnement portant sur le climat. Et à ce sujet, le journal Canal D nous en parle justement, que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, appelle de nouveau à agir pour limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius. Pour dire, Oulo, Jean, que l'un des problèmes auxquels l'humanité est confrontée, c'est le dérèglement climatique, c'est le réchauffement, les glaciers qui fondent, les pluies qui se raréfient, et quand il en tombe, c'est inondation ici, sécheresse là, si bien que l'eau, même comme denrée vitale, commence déjà à manquer sous certaines tropiques.
Bien évidemment, ça, vous savez, depuis quelques années, on ne cessera de le dire, le réchauffement climatique est devenu un des principaux fléaux qui frappent l'humanité tout entière. Et principalement, c'est les pays en voie de développement qui sont les plus touchés, même si nous sommes les moins pollués, nous sommes les plus affectés par cette situation. Et c'est à cet effet que le GIEC a encore interpellé la dernière fois les pays mondiaux vraiment à mettre en œuvre des mécanismes pour que nous puissions limiter le degré de réchauffement à au moins 2 degrés Celsius, parce que à cette allure on ne sait pas ce que deviendra le monde que nous sommes en train aujourd'hui de détruire. Qu'est-ce que nous allons laisser pour la progéniture? On a comme l'impression que les puissants aujourd'hui, les pays les plus nantis, s'en foutent pas mal parce qu'ils continuent pas détruire l'environnement. On ne sent pas vraiment une prise de conscience de ces lobbies-là, de ces groupes, je vais dire économiques, qui sont là pour le profit et uniquement que le profit. Et c'est malheureusement les pays en voie de développement qui paient le prix. Le GIEC a appelé à plus de justice sociale, plus de sobriété. Parce qu'on se dit qu'une fois que nous sommes en train de réduire notre train de vie avec plus de sobriété, on détruit mieux l'environnement, on détruit mieux la couche d'ozone, on pollue moins. Mais aujourd'hui, il faut dire que cette adresse est plus adressée aux pays développé. Parce que nous, en Afrique, ma foi, je ne sais pas ce que nous polluons, nous nous débrouillons, et bien, c'est l'occasion pour les présidents comme Emmanuel Macron, le président français, qui était la dernière fois au Gabon, lors du One Summit, et qui disait que il faut qu'on protège les forêts africaines parce que c'est un bien commun. On se pose la question, est-ce que c'est maintenant qu'ils savent que l'Afrique est un bien commun? Quand on vient déverser les déchets en Afrique, on ne sait pas que l'Afrique est un bien commun. Mais aujourd'hui que ça pète, on trouve que nous, il ne faut pas qu'on touche nos ressources et qu'ils continuent pas à se développer. Ma foi, il faut que vraiment les puissants de ce monde essaient de comprendre, parce que moi je me dis qu'à à cette allure, je ne sais pas qu'est-ce qui restera pour notre avenir.
On pourra toujours accuser les puissants, les grandes puissances, mais nous-mêmes, est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité? Moi, en 1978, quand j'étais allé pour la première fois à Dapon jusqu'à Saint-Cassé, il y avait un peu partout des forêts. Et quand j'allais chez mon oncle à Kpalimé, jusqu'à Kouma, Damé, il y avait des forêts. Mais aujourd'hui, même le long de nos cours d'eau, longer un peu le Raro, le Zio, le Mono, tous nos fleuves, nous avons tout coupé. Il n'y a pratiquement plus d'arbres. Et la conséquence, nous la payons, nous la payons au jour le jour. Donc nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi cet ambitieux programme du Togo de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, à l'heure du bilan, nous le ferons. Mais revenons à une autre journée qui est passé totalement inaperçu. Le lundi 20 mars dernier, c'était la journée internationale du bonheur. Et personne n'en a parlé, moi-même y compris. Je n'en ai pas parlé le lundi 20. Et merci à nos amis de Flambeau qui en parlent aujourd'hui, avec le Togo qui a été classé 122e sur 150 pays enquêtés. Le Togo au creux de la vague. Et cela inspire éditorial de cela inspire Flambeau dans son éditorial intitulé Le malheur en tête. Magloire, votre journal rappelle que personne, et ni l'État, et pratiquement personne, n'a pensé à cette journée du 20 mars, journée internationale du bonheur.
Oui, ça sonnait véritablement curieux pour nous journalistes, dans la mesure où il était question donc au travers de ce rapport-là de juger le bien-être des citoyens. Et lorsqu'on sait que le Togo, notre pays, fait partie des pays enquêtés et que lundi passé, les Nations Unies ont rendu public donc les résultats 2023 de cette enquête et que 72 heures après, pratiquement personne n'en parle, ça sonne curieux. Et c'est là où bondit donc la presse dans son rôle, on va dire citoyen, pour informer l'opinion.
La presse dans son rôle de veille et d'éveil.
Exactement, pour informer justement la population de ce qui se fait et de la jauge que, on va dire, le regard extérieur fait de ce qui se fait au Togo comme gouvernant politique, social et économique. Et donc ce rapport est un rapport annuel que rend public les Nations Unies et ça prend en compte le bien-être, comme je venais de le dire, et chaque année, il y a 150 pays qui sont enquêtés. Il y a plusieurs indicateurs, notamment la santé, le bonheur.
Il y a la bonne santé, le PIB par habitant, le soutien social, le niveau de corruption dans le pays, la solidarité, la liberté d'expression, entre autres.
Entre autres. Alors, lorsque, à la fin, n'est-ce pas, ou du moins en se focalisant sur les résultats de cette année, on se rend compte que le Togo est classé 122e. Sur 150 par principe, mais spécialement pour cette année, seuls 137 pays ont été enquêtés. Et donc sur les 137 pays, le Togo est classé 122e. Alors, ça inquiète.
Il y a juste que 15 pays derrière nous.
Et entre autres pays derrière nous, il y a l'Afghanistan, il y a la Jordanie, j'en passe. Alors, ça nous amène à nous questionner sur plusieurs choses. Vous savez que depuis un bon bout de temps, il y a plusieurs projets de développement qui sont déroulés au Togo, plus de 10 ans au minimum. Alors qu'on soit encore là 10 ans après, à tirer, ou du moins à se situer dans le creux de la vague, comme nous l'avons titré, nous nous demandons, mais où est-ce que ça cloche? Où est-ce que le problème se pose réellement? Est-ce que c'est les projets qui sont déroulés, qui ne sont pas vraiment viables? Est-ce que c'est les hommes qui sont censés mener ces projets-là, ces programmes de développement qui ne jouent pas véritablement leur rôle? Nous nous posons la question de savoir. Et donc, tout ceci nous amène également à interpeller les gouvernants. Parce que vous savez, lorsqu'on parle beaucoup plus des fondements de la politique, c'est-à-dire que la finalité, c'est quoi? Que le citoyen lambda profite justement de la gestion du pays. On parle de redistribution des ressources du pays, que les citoyens soient heureux à la fin. Et donc si cette enquête, parce que comment les Nations Unies procèdent, il y a des experts à la matière qui descendent dans les populations et qui enquêtent les gens dans l'anonymat et qui répondent selon tous les critères que nous venons de citer. Et donc, quand le classement du Togo pour cette année nous amène tout simplement à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Merci. L'article conclut que le quotidien du Togolais n'est pas rose malgré les efforts au sommet de l'État. Chacun devrait se sentir concerné, interpellé. Alors, nous continuons avec quelques aspects de notre quotidien. Par exemple, les infrastructures routières. Il nous arrive souvent de parler des routes et de nos rues, notamment de la dorsale, de la nationale numéro 1, qui est si vitale, sur tous les aspects pour notre pays. Aujourd'hui, c'est Ouara le vainqueur qui revient en interpellant, en invitant fermement de revoir l'efficacité des ouvrages sur cette nationale numéro 1, parce que Michel, le journal, dit que la sécurité routière dépend en partie de la qualité du réseau routier, de la qualité des ponts, et justement les ponts sur la nationale numéro 1 méritent une attention vigilante, n'est-ce pas?
Oui, mais avant d'en arriver, je pense que ma gloire, en tout cas le journal Framois Démocrate a fait un travail qui attire notre attention et qui nous amène à dire aussi un mot, pas deux mots, un mot. Et je ne sais pas pourquoi tu voulais qu'on passe sous silence à la journée du bonheur.
Non, le débat continue seulement, je voudrais qu'on le décline sous plusieurs non. aspects.
Non. Le bonheur, tu as cité les aspects fondamentaux sur lesquels le bonheur se dessine.
Et les critères du classement des Nations Unies.
Voilà. Mais je dis que, d'abord, félicitations à Flambeau parce que moi, je n'ai pas vu, moi, je me suis rappelé de la journée, mais je n'ai pas vu le classement et donc, des Nations Unies. Et au regard de ce classement, nous ne sommes pas en bonne position. Le Togo, je veux dire. Il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à ça, mais globalement, il est question de rappeler tout le temps au chef de l'État, puisque c'est lui notre papa national. Il est question de le rappeler à tout moment que chaque jour que Dieu crée, quand il sort et il regarde le visage de ses collaborateurs, qui ne pense pas que c'est comme ça tous les Togolais sont. Je l'ai toujours dit et je le répéterai.
C'est vrai,
toujours.
Tu le dis souvent.
Oui. Parce que j'ai l'impression que quand le chef de l'État regarde son entourage, des gens bien parés, avec des joues et qui brillent, bon, le Togo va bien. Et quand il fait des sorties, moi j'aurais voulu qu'il aille seul. Pas un ministre derrière lui, pas un cadre du milieu, qu'il aille seul. Écoutez les gens. En aparté, pour qu'il recueille lui-même les aspirations
et les vécus quotidiens des gens.
Parce que je ne supporte pas cette affaire de cadre du milieu. Moi, je ne partage pas ça. Si le chef de l'État, il est le seul élu à la tête du pays, s'il veut écouter les populations, qu'il aille seul pour écouter les populations que d'être accompagné. Et lorsque vous posez une question juste après, les cadres de votre milieu vous interpellent. Mais qu'est-ce que tu as dit au chef de l'État? Cette façon de faire dans ce pays, je pense que si on veut aller vers le bonheur, on doit éviter cela. Et c'est lui que j'interpelle. Il doit éviter cela. Allez écouter les jeunes, les femmes, les vieilles, les vieux qui les écoutent sans être accompagnés. Je pense que ça lui. Peut-être il le fait, je ne sais pas. Mais j'aurais voulu qu'il le fasse davantage.
Tu le lui rappelles.
Oui. Parce que si dans son entourage, on applaudit tous les jours, il n'a qu'à savoir qu'ailleurs, les gens ne font que pleurer. Les gens n'ont pas deux repas par jour. Je ne veux pas parler de trois. Hein. Je dis, les gens n'ont pas deux repas par jour. Et allez-y voir ce qu'ils mangent. Ou s'ils ont deux repas. Ou s'ils ont un repas. Passons. Nous avons parlé des ouvrages. Sur la dorsale, comme tu le dis, la nationale numéro 1. Je suis parti du fait que il n'y a pas longtemps, deux poids lourds se sont coincés sur un pont un peu à la hauteur de
c'était à Bandi?
Non, à la hauteur de Kara.
Ouais,
un peu avant d'arriver à Niamtougou.
Ah, oui, oui.
Et on a dû dévier la circulation qui devait passer par Sarkawa avant d'aboutir à Kara et continuer. Je me dis que ce qui est arrivé à Mapapé, je pense que ça doit être en
2008.
Ça devait quand même de temps en temps éveiller la conscience de ceux qui gèrent donc les infrastructures, notamment le ministère des TP, pour faire en sorte que régulièrement les ouvrages sur la nationale numéro 1, soit visitée, soit inspectée, pour nous épargner des surprises désagréables. Et au-delà de cette voie, les voies adjacentes aussi, les voies nationales numéro 2, 3, 4, il faut que de temps en temps, les autorités, en tout cas concernées, fassent un effort pour nous rassurer, pour rassurer les riverains ou bon, les usagers de cette route-là, que les ouvrages tiennent bien et qu'on peut les utiliser à tout moment pour ne pas être à l'abri d'une vilaine surprise un jour. Nous ne le souhaitons pas.
Merci, c'est un souhait, nous le rappelons souvent. Montons au Grand Nord avec ce constat toujours, la circulation, notamment à l'intérieur de nos villes. Et Canal D fait le constat que dans la ville de Dapaon, zéro feu tricolore à Dapaon. Et Jean, si aux heures de pointe, s'il n'y a pas des agences, s'il n'y a pas des agents de police pour réguler la situation, c'est souvent des situations difficiles qui peuvent virer même à du désordre.
Oui, c'est le patatras. Moi, je dis que la région des savanes, pour ne pas dire Dapaon, porte à juste titre le surnom de sixième continent qu'on lui a souvent attribué. Parce qu'il faut, le rappeler que c'est une zone qui a été pendant longtemps abandonnée des pouvoirs publics. Et on ne se rend pas compte que même aujourd'hui, les feux tricolores manquent à Dapaon. C'est inadmissible qu'on conçoive que sur une route de près de 10 km, quand vous rentrez de Dapaon jusqu'à sortie, vous avez 10 km à peu près, et vous avez plusieurs grands carrefours, et qu'on comprenne, qu'on apprenne qu'au 21e siècle, on n'a pas de feux tricolores dans cette grande ville, qui est une ville centrale. Quand vous quittez le Burkina après 5 ans, c'est Dapaon. Et quand vous sortez du Togo, c'est la dernière plus grande ville qu'on a. Mais pourquoi est-ce que 60 ans après l'indépendance, on n'a pas de feu tricolore à Dapaon? Et vous l'avez si bien remarqué, quand il n'y a pas un agent le matin à 6 heures ou parfois la soirée, vous êtes là-bas à midi, c'est que c'est un jeu de passe-passe. Vous calculez, quand celui-là rate un peu, tu passes. Et puis, ma foi, c'est comme ça tous les jours.
Avec
les risques. Et je dis, les accidents mortels, on en compte régulièrement. On se demande pourquoi aujourd'hui, personne n'est interpellé. Pourtant, l'expression que Michel n'aime pas, les cadres, entre griffes, il y en a à profusion à Dapaon. Pourquoi personne ne dit rien? Que fait la mairie? C'est le statu quo. Nous interpellons quand même les autorités pour que quelque chose soit fait, pour que quand même on puisse implanter les feux tricolores. Parce que même dans les grandes villes comme Lomé, où il y a les feux tricolores, difficilement les gens respectent. Malgré qu'il y en a, difficilement on respecte, on voit les accidents qu'il y a. Qu'en est-il de la ville où il n'y en a même pas? C'est le constat aujourd'hui que nous posons sur la table.
Mais revenons à Lomé ici avec Arrêt sur image. Front des démocrates, la page 3. Nous sommes sur la périphérie nord-ouest de Lomé, sur la nationale numéro 5. Et qu'est-ce qu'on voit? Un père de famille qui embarque toute sa famille dans une aventure très risquée. Il y a le papa, il y a la maman, il y a leurs trois enfants, et c'est pas fini, ils y ajoutent des bagages. Ça fait un ensemble très surchargé, et l'article dit que peu importe les raisons, mais rien ne saurait expliquer une telle légèreté doublée d'irresponsabilité, car bien fatale pour cette famille sera la survenance d'un accident. Là, c'est une interpellation pour nous les individus, Magloire.
Oui, c'est véritablement une interpellation pour nous les individus, tous citoyens, parce qu'on venait tantôt de le dire, c'est vrai. La situation sociale et économique du pays, elle est telle qu'elle, ce qui fait qu'il y a des cris d'exaspération un peu partout. On se dit il n'y a pas les moyens, c'est vrai. La crise économique, ou du moins la crise sanitaire aussi, est passée par là. Avec toutes les conséquences, qu'à cela ne tienne, on ne va quand même pas se permettre de risquer notre vie. Parce que vous savez, généralement, comme on le dit, la vie que nous avons, la vie humaine, elle n'a que la copie originale. Il n'y a pas de photocopie. Tout le monde traîne avec l'original de sa vie. Et à la moindre, je ne sais pas...
Et l'original est en pièce unique.
En pièce unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dupliquer ça. Et donc, cela doit normalement nous amener à prendre conscience de la situation où Par exemple, ce père de famille qui peut-être, on se dira, il n'y a pas les moyens, n'est-ce pas, pour prendre un taxi, se permet d'embarquer et sa femme, et lui-même, et leurs trois enfants, ajouter à cela tout un tas de colis. Il fallait voir, j'étais tombé ébanoui. Quand on a vu cette image, on s'est dit, mais qu'est-ce qui pouvait véritablement amener quelqu'un, comme on le dit, un homme normal, normalement constitué, à s'embarquer comme cela dans cette aventure est très risquée. Et donc, nous nous disons, non, on peut tout dire, mais rien ne saurait expliquer cette histoire. Si lui-même ou lui seul, il se permet d'embarquer sa femme peut-être pour aller là où il veut, ou lui seul, on peut comprendre. Mais embarquer avec eux, leur famille, c'est toute la famille. Et si un accident survenait, ça voudrait dire que c'est toute la famille qui est décimée. C'est des sacrifices de plusieurs années qui sont partis à l'eau comme ça. Et donc, cet article pour justement interpeller la conscience collective des usagers de la route que nous sommes tous à prendre soin de notre vie parce que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie.
Merci. Restons toujours à Lomé et là, c'est Liberté qui nous promène sur le boulevard du Mono. Et là, la scène quotidienne, c'est que les trottoirs du boulevard du Mono sont transformés en un urinoir à ciel ouvert. Ça, c'est aussi nous. Et toujours Liberté qui nous parle de la santé. Avec ce rapport du département d'État américain qui épingle le Togo, abus commis par les forces de défense de sécurité, arrestations et détentions arbitraires, graves restrictions à la liberté d'expression, corruption, un lot détonnant. Et comme si ça ne finissait pas, Liberté nous transporte au CHU Silence Olympio. Et là, le constat, c'est zéro scanner, zéro fibroscopie. Mais c'est le CHU le Silence Olympio qui dispose de la morgue la plus moderne. Et là, voilà aussi d'autres aspects qui font que le Togo est classé 122e en matière d'indice du bonheur.
En réalité, le système de santé au Togo, franchement, nous-mêmes, on se pose mille et une questions. Moi, j'ai tout le temps, à travers nos parutions au niveau de la rédaction, relevé un certain nombre d'imperfections et d'irrégularités, d'anomalies aussi liées au système de santé. Et on a toujours demandé au ministre de la Santé, le professeur Midiawa, d'ouvrir les yeux parce qu'on a l'impression qu'il dort depuis qu'il est nommé. Et à ce stade, si on doit nommer des ministres, enfin si on doit évaluer, voilà, plutôt des ministres au gouvernement, je pense quand même qu'il ferait partie des plus mauvaises notes de la classe. Parce que justement, depuis qu'il a, il a été nommé, on n'a pas vu d'amélioration au niveau même de notre système de santé en tant que tel. Et on continue des années après de regarder la lune. C'est vrai que la contractualisation est là. Il y a certains qui saluent cette contractualisation. Il y a d'autres qui continuent également d'émettre des critiques dans le sens de l'amélioration des choses. Mais sur le plan des infrastructures, sur le plan du plateau technique, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Donc la pandémie est venue nous prouver que c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. On a vu que les grands hôpitaux, même les plus grands hôpitaux, là où les gens vont quand ils ont même un simple palu se soigner, c'est dans ces pays-là plutôt que les gens mouraient comme des poussins. Et nous qui n'avons rien, nous qui n'avons même pas un hôpital moderne en tant que tel, on a vu que quand on compte le nombre de morts dans les pays où il y a les hôpitaux modernes, et quand on les compte chez nous, on constate que c'est la grâce de Dieu qui nous a tous couverts. Et que nous-mêmes là, franchement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on allait avoisiner le double de ce que les gens avaient enregistré comme bilan de l'autre côté. Donc, c'est l'occasion de demander de faire encore un plaidoyer pour que nos infrastructures hospitalières soient quand même d'actualité. Parce que le Saint-Fort a toujours fait cette bataille et continue de le faire. Le personnel de santé demande un plateau technique digne de ce nom. On demande que les chirurgiens, quand ils vont opérer des patients, se mettent dans les conditions idoines, qui est tout. Qu'il y ait une radio, qu'il y ait une fibroscopie, qu'il y ait un plateau technique digne de ce nom, des bistouris, etc., pour que le patient soit satisfait lors de ses opérations. Et donc, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et la morgue est rénovée. Et pendant ce temps, l'hôpital qui est censé accueillir les malades, accueillir les patients, soigner les gens, continue de demander un scanner, continue de demander un service de radio digne de ce nom, continue de demander une fibroscopie et beaucoup de choses. Ce n'est pas nous qui le disons, le personnel de santé même le dit à travers ces nombreuses plateformes revendicatives.
Voilà l'indice du bonheur avec le classement du Togo qui ne fait honneur ni à nous les individus, encore moins à l'État. On a évoqué quelques aspects, hein. Le transport, hein, aussi bien dans le pays que dans nos villes, ce qui va, ce qui ne va pas, nos propres comportements, hein, nous-mêmes qui nous plaisons à surcharger nos véhicules et nos motos avec notre famille en cas d'accident, qu'est-ce qui arriverait? Et puis l'incivisme, quand nous transformons nos routes nationales en urinoirs. Hein, un homme, il sort son zizi dans la rue et puis il urine. Excusez-moi d'être un peu grossier. Hein, les femmes même, en pleine ville, la femme écarte les jambes et puis elle urine. Ce qu'on n'a jamais imaginé de par le passé dans le village, c'est ce que nous faisons. Alors quand les parents font comme ça, qu'en serait-il pour les enfants? Et puis, les problèmes en matière de santé et autres, on ne finirait pas tout. Mais à côté de ce qui ne va pas...
Michel a dit... Non, ça fait réfléchir quand tu parles comme ça. Moi, je me dis, notre éducation doit passer par là. Parce que quand vous allez au Ghana, je pense que ils n'ont pas ce réflexe que nous avons ici. C'est une question d'éducation. Mais c'est là-bas, c'est à ce niveau-là que l'État ne devait être un peu dur. C'est-à-dire, lorsqu'on prend quelqu'un dans ces conditions-là, il doit avoir de petites sanctions qu'on l'école. Mais si c'est un journaliste qui, peut-être, qui a dit deux mots, bon, lui, il faut lui régler ses comptes rapidement. C'est ça qui vraiment énerve, qui révolte certains Togolais. Parce que on ne peut pas fermer les... Ce que tu dis là, quand, vous savez, sur le boulevard du Mono, je pense que c'est une route très importante pour notre pays. Les étrangers passent par là. Mais imaginez, quand ils nous voient comme ça, qu'est-ce qu'ils disent de nous après? Et donc, moi, je pense que au-delà de tout ça, l'État devait quand même prendre certaines mesures, sanctionner les gens, nos comportements qui ne sont pas de nature à aider la ville à être propre. On devait nous sanctionner. Que de jeter son dévolu sur certains citoyens pour de rien du tout. C'est ça qui fait que certains ne supportent pas, certains ne comprennent pas pourquoi nous sommes gouvernés de cette façon-là.
Merci. Mais à part ce qui ne va pas, il y a quand même les efforts que nous faisons. Par exemple, cette semaine, quand le chef de l'État est allé lancer les travaux de l'extension de la centrale solaire photovoltaïque de Blita, qui va passer de 50 MW à 70 MW. Et d'après ce qui se dit, c'est que depuis Atakpamé jusqu'à Sokoré, les foyers et toutes les usines pourront s'alimenter à la centrale de Blita, ce qui n'est pas rien. Le confrère, le tonnerre aussi en parle aujourd'hui. Un pas de plus vers un accès universel à l'énergie. Et Ouara, les vainqueurs, qui parle lui aussi des travaux d'extension de la centrale de Blita, pour rappeler que le Togo vise de porter le taux d'électrification à 100% d'ici 2030. Michel, si ce pari est tenu, ce serait quand même une belle prouesse pour notre pays.
Oui, et c'est notre prière, parce que dans ce domaine-là, le Togo fait beaucoup d'efforts en matière d'énergie électrique, parce que je pense en 2005, le Togo était, je pense, à 25%. Aujourd'hui, on est à plus de 45-50% par là. Et donc, si d'ici 2030, le gouvernement émet le vœu d'atteindre les 100% de couverture énergétique pour le pays, s'il met de son côté les moyens, je pense que c'est possible d'en arriver.
Merci, c'est un projet que nous suivons avec vigilance, tout comme l'ambition également de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Le gouvernement ne communique plus beaucoup là-dessus, mais nous attendons à chaque occasion de
vous rappeler. Disons bravo au ministre Folie Bazi. c'est un projet d'ici, vous avez dit 2030.
2030.
Voilà. Dans ce pays où on est habitué, quand un ministre est là, quand il parle, l'autre vient, ce qu'il a comme projet, lui laisse pour prendre autre chose, pour ne pas continuer dans le même sens. Mais si le ministre vous dit que d'ici 2030, 1 milliard d'avis, il sait que il peut durer au gouvernement, peut-être que jusqu'à ce qu'il ne sorte, peut-être on n'a pas fini de planter les 1 milliard. Ça veut dire que c'est un vaste programme.
Oui.
Son successeur peut continuer.
Oui.
Le troisième peut arriver. C'est comme ça, moi, je pense que dans une vision futuriste de la gestion du pays, c'est comme ça devait aller.
Et puis, il faut rappeler que dans le cadre de la politique des grands travaux, les sociétés ou les prestataires, quand ils veulent faire les routes, ils coupent les arbres.
Et n'en prennent plus.
Et quand les travaux sont finis, on laisse la route comme ça. Franchement, de grâce. Il faut protéger l'écosystème. Quand vous finissez de couper et que la route est faite, que le ministre de l'Environnement interpelle, que ça soit dans le cahier de charge, qu'on puisse reboiser. Il faut planter. Il faut que les gens puissent quand même bénéficier de la biodiversité, de l'écosystème comme il était. Mais vous ne pouvez pas couper, faire de bonnes routes et puis laisser la nature comme ça. Non. Il faut avoir l'habitude et avoir cette présence d'esprit de planter pour qu'on puisse recouvrir l'écosystème.
Merci.
Et les rares arbres qu'on a,
ouais,
il ne faut pas aussi que les puissants, entre guillemets, aillent les couper aussi pour le commerce. Parce que il y a nous avons vu des couvertures, nous avons vu des techs. On était content d'observer cela parce que ça permettait quand même de donner l'humidité. Je ne vais pas parler de la pluie parce que je pense que c'est à un niveau beaucoup plus élevé, mais ça donnait de l'humidité, tout ça là. Mais un matin, des machines arrivent. Bon, que c'est qui?
Non, Michel, je disais
qui,
en 1978,
voilà,
pour la première fois, j'ai pu aller jusqu'à Tsinkazé.
Oui.
Et tout au long dans ce numéro 1, il y avait des tas de tequerets.
Non, ce n'est pas faux.
Tout est coupé.
Oui.
Aller de Lomé jusqu'à Kpalimé, tout est coupé. Aller de Kpalimé jusqu'à Atakpamé, tout est coupé.
Oui.
On ne replante pas là non plus. Alors, qui est-ce qui coupe?
Qui
est-ce qui donne l'autorisation de couper?
Voilà. On dit, ce n'est pas autorisé de couper. Mais il y a des gens qui viennent avec des autorisations. Ils ont pris ça où? C'est ça le problème. Parce que si les choses sont faites de cette manière, mais... les dégâts, nous allons les partager.
Merci. Mais revenons également à une infrastructure qui fait notre fierté, surtout qui est porteuse d'avenir, c'est le port autonome de Lomé. La dernière fois, quand Bazoum était là, c'est là que Fornyasinghe l'a amené, notamment à Lomé Container Terminal, pour vanter encore les mérites de notre port de Lomé. Les journaux le rappellent également. Notamment Écho du pays qui nous parle des performances du port autonome de Lomé comme des fruits des réformes et d'investissements de ces dernières années. Flambeau également parle du port et également de ce que le port constitue l'une des vaches laitières. C'est pas péjoratif, l'une des rentrées de devises dans notre pays, notamment pour l'office togolais des recettes. Mangoula, vous avez approché la direction port de l'OTE avec des signes vraiment encourageants, pour ne pas dire satisfaisants.
Oui, vous savez que lorsqu'on prend par exemple le plan de développement, le PND, Plan National de Développement, on a mis beaucoup plus l'accent également sur le port autonome de Lomé qui devrait être un hub régional. Et parce que justement, nous disposons déjà des atouts majeurs pour y arriver. Et donc, au niveau institutionnel, on a mis en place plusieurs réformes qui ont permis aujourd'hui à ce qu'on puisse engranger véritablement des points en la matière. Et lorsqu'on prend par exemple la nouvelle direction de l'OTE Port, qui était hier un simple service, a maximisé. Aujourd'hui, on ne commence pas à voir les fruits. Parce que quand on voit par exemple côté dématérialisation, on voit tout ce qui se fait. Il y a la réduction assez maximale des temps de traitement des marchandises. On a rétréci également au mieux n'est-ce pas, tout ce qui a trait aux velléités de fraude. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez un peu au port, tout le flux qu'on remarquait il y a 5 ans, 10 ans, tout le flux des démarcheurs, aujourd'hui, il n'y en a plus tellement. Et ça fait que ça viabilisait un peu cette plateforme-là qui aujourd'hui commence véritablement à donner des fruits. Et n'oublions pas que, par exemple, pour ce qui est de cette direction au théâtre des ports, par exemple, leur objectif, c'était que très bientôt, ils vont pouvoir être en mesure de porter jusqu'à 70% le revenu, n'est-ce pas, de l'OTR. Et dans 10 ans, par exemple, doubler son apport au trésor public. Et donc, c'est des échéances ou c'est des objectifs assez colossaux. Et il faut absolument que tout le monde s'y mette pour pouvoir y arriver. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est assez encourageant et il était utile de le rappeler à l'opinion.
Alors, le défi de la dématérialisation qui est fortement tenu, tout se fait en ligne maintenant, d'après ce que vous ont confié les dirigeants du port, de l'OTR port, et avec trois avantages subséquents. Un, l'économie, l'OTR économise en paperasse. Ensuite, la rapidité des opérations et la traçabilité, et ce qui permet d'écarter les possibilités de fraude. C'est une bonne chose. Mais à l'OTR port, on est conscient de la concurrence dans la sous-région. Par exemple, ils sont conscients qu'il faut ajuster les tarifs en fonction des autres pays qui nous entourent et également maintenir le pari de la rapidité et du dynamisme du port.
Non, je crois que c'est le principal enjeu parce que, comme vous venez de le rappeler, c'est vrai que le port autonome de Lomé a déjà un nom, mais nous sommes sur un marché assez concurrentiel aujourd'hui où tout est dynamique partout. Mm-hmm. Il y a à côté le port de Cotonou qui aussi fait un peu bouger les lignes. L'autre fois, on a vu le président nigérien, Mohamed Bazoum, avant de venir au Togo, il était à Cotonou, où les autorités béninoises ont profité pour vendre aussi le mérite de la plateforme portuaire béninoise. Et à côté également, il y a le port de Téma, qui n'est pas aussi des moindres dans la sous-région. Et plus loin, il y a aussi côté Abidjan. Et donc, tout ceci mis ensemble, ça prouve véritablement qu'on n'a pas le droit de dormir sur nos lauriers. Mm-hmm. Bien que le port de Lomé soit le seul port disposant d'eau profonde de la sous-région, il faut quand même qu'à notre niveau, qu'on puisse réajuster les prix, des prix attractifs pour pouvoir attirer des investisseurs. Je crois que c'est aussi ça l'objectif des premières autorités
portuaires. Oui, Jean Houlot.
Oui, ça, tu fais bien de parler de concurrence. Et comme Angloire le dit, moi, je dis au-delà de la dématérialisation et des efforts que fait le port, il ne faut pas oublier que nous avons un problème d'infrastructure routière que beaucoup sont en train de crier. Quand vous comparez les infrastructures routières du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ma foi, nous ne sommes pas compétitifs.
Notamment pour les pays de l'Interland.
Pour les pays de l'Interland qui préfèrent, à cause juste de ces voies, ces pays. Mm-hmm. Il va falloir vraiment que nos autorités réfléchissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le seul port en eau profonde. Mais imaginez un instant après que peut-être un pays voisin arrive à avoir les mêmes choses que nous. Je crois que nous allons tomber. Il va falloir vraiment que nous mettons du paquet et que nous travaillons vraiment sur du moyen et du long terme afin de garantir cette manne aujourd'hui que nous avons.
Le port dans son ensemble qui a les faveurs des pronostics dans la presse, notamment la direction OTR du port aussi. Maintenant, continuons avec la Chambre de commerce d'industrie qui est sous administration provisoire depuis bientôt 2 ans avec madame Nathalie Bito. Nous sommes heureux d'en parler parce que nous la recevons assez souvent ici. Elle était partie dans un premier temps de 6 mois. Et puis, elle en est à 2 ans, mais cela ne dépend pas de nous. Par contre, la nouvelle tribune qui regarde un peu Madame Bito à la Chambre de commerce avec ce titre qui doit la frapper elle-même aujourd'hui, c'est Nathalie Bito, la gaffe de trop. Et l'homme ?
Bon, vous savez, comme vous l'avez si bien dit, on était parti d'un mandat de 6 mois provisoirement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce mandat se prolonge dans le temps et dans l'espace. Et sans qu'on ne sache exactement la fin, parce que ce bureau risque de faire un mandat entier d'un président élu de la Chambre.
Qui est de 4 ans, je présume.
Effectivement. Donc, ils font la moitié du mandat d'un président normalement élu en tant que président de la Chambre de commerce. Là n'est pas encore le débat. Le débat se situe
à un niveau où Mme Bito elle-même, auditrice de profession, c'est-à-dire qu'elle a un cabinet international qui a audité la CAN 2013, notamment le rapport que vous connaissez, c'est son cabinet qui l'a fait, elle a relevé des incongruités. Elle a, quand vous lisez ce rapport, vous savez qu'elle a quand même sorti des trucs pas possibles. Et à sa nomination au niveau de, en tant qu'administratrice provisoire de l'hôtel Sarakawa, puisqu'elle est en même temps administratrice de l'hôtel Ibis, elle est aussi administratrice de l'hôtel Sarakawa, elle a épié beaucoup de dossiers pour finalement relever des choses, des imperfections, des malversations financières, etc. Pourquoi je fais ce parallèle? Je fais ce parallèle parce qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce, ça ne va pas côté finance. Elle-même, qui est auditrice de profession, se permet de faire des choses qui ne sont pas conformes à l'orthodoxie financière. Vous comprenez qu'une présidente provisoire d'une chambre de commerce se permet un matin d'envoyer un courrier à des directeurs généraux de banque pour leur demander de modifier la procédure de retrait ou de dépôt de fonds sur les comptes de la chambre. Ça se passe où? C'est-à-dire, un simple courrier signé de la présidente de l'institution au DG de banque pour leur dire que désormais, à partir de ce jour, les comptes ouverts dans vos livres, d'accord, au nom de la chambre de commerce, seront mouvementés comme suit. Pour des montants inférieurs à 500 000, je signe, le directeur général signe, numéro 2, je signe, le directeur administratif et financier signe, numéro 3, le directeur administratif et le directeur général peuvent signer. Pour les montants supérieurs à 500 000, je co-signe le chèque avec le directeur financier ou je co-signe le chèque avec le directeur général de la chambre. Vous avez trouvé ça où? Alors que, initialement. Alors,
ce faisant, puisque Mme Bito, elle est administrative, mais elle n'est pas seule. Elle a deux agents.
Deux vice-présidents.
Ce faisant, elle ne s'appuie pas sur une décision prise collégialement par elle-même et ses collègues.
Mais dans ce cas, la décision. Parce que pour ouvrir même un compte d'association dans les banques, il faut un PV. Il faut un mandat. Mais dans ce cas, quand vous écrivez un courrier comme ça, on joint le PV ou le mandat. Elle n'a rien joint. Et ce qui fait que le ministre du Commerce l'a interpellé pour lui demander de rapporter ses courriers parce que ça ne répond à aucune orthodoxie financière. Ouais, mais la Chambre de commerce, ce n'est pas une entreprise privée. Ce n'est pas le cabinet IIC. C'est une institution d'État. C'est l'État qui finance la Chambre de commerce. Donc, une présidente tutelle provisoire ne peut pas s'arroger tous les droits en se levant comme ça, en écrivant des courriers. Maintenant, pire, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des banques qui ont exécuté la décision déjà. Il y a certaines banques qui ont exécuté la décision. Et ces banques risquent d'être poursuivies demain.
Par qui?
Par la future équipe qui sera élue. Parce que si on remarque des malversations financières sur les comptes à partir du moment où vous avez unilatéralement modifié les signatures, ça voudra dire que demain, s'il y a malversation, porte-main contre la banque pour avoir autorisé justement la modification de signature sans PV, sans mandat. C'est grave. Parce que aucune lettre ne peut faire force de loi. Pour, en matière financière, c'est le droit, c'est la règle. C'est ça, c'est-à-dire, vous avez les signatures, vous avez un mandat, vous avez un PV. C'est ce qu'on nous demande même dans nos petites associations de quartier. Mais dans ce niveau de responsabilité, il y a des banques qui se permettent de faire ça. Elles risquent gros parce que la future équipe qui sera élue peut demander un audit et poursuivre la banque pour avoir accepté de faire des combines avec l'actuelle présidente. Et quand on dit que c'est une auditrice de profession qui fait ça, je me dis qu'au cabinet IIC, c'est un cabinet même à auditer. Le cabinet, non, ce cabinet est audité parce que une patronne d'un cabinet d'audit ne peut pas faire des bêtises comme ça. Excusez-moi, ce sont des bêtises. Mais vous décidez comme ça, alors que vous avez deux vice-présidents avec qui vous co-signez des chèques, mais de sortir de votre zone de confort et d'écrire unilatéralement des bancs pour modifier les signatures parce que les deux vice-présidents ont refusé de co-signer des chèques parce qu'il y a des irrégularités. Vous envoyez des chèques, on dit co-signer. Les gens refusent d'envoyer des mails. Nous ne faisons pas partie de cette magouille. C'est fini, madame. Et vous vous levez, vous modifiez les choses. Non, ça ne se fait pas.
Voilà, c'est l'appréciation de la nouvelle tribune sur le mandat provisoire de Mme Bito à la Chambre de commerce. Oui, Michel?
Non, mais j'ai écouté religieusement mon confrère et l'homme. Encore une fois, la Chambre de commerce revient au devant de la scène. Oui. Vous savez, il y a de cela quelques mois, on a poussé M. Meva dans le dos. Vous vous rappelez, on l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Ce que je constate, c'est que le fonctionnement même de la Chambre de commerce, aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que c'est le symbole d'une certaine guéguerre qui se passe dans certains pans de l'administration de notre pays. À voir de très près, je pense que toute institution doit fonctionner sur des tests. Les tests d'abord. Et une présidente, en tout cas présidente du comité délégation spéciale, je pense que avant de prendre des décisions, elle a deux vice-présidents. Elle a deux vice-présidents et je pense qu'elle devait les consulter d'abord. Je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. Je le dis parce qu'elle est encore vivante et comme tu l'as dit, tu la reçois de temps en temps, il se pourra qu'elle débarque ici pour donner sa version des choses.
Elle est la bienvenue.
Oui, mais j'ose comprendre que de 6 mois, on est à plus d'un an dans la gestion de la Chambre de commerce par cette délégation spéciale-là. C'est pour dire que tout ce qu'on reprochait à au président Meba aujourd'hui, c'est clair, les Togolais se rendent compte que c'était des combinaisons, comme on le sait au Togo.
N'allons pas tirer trop hâtivement de conclusions.
Nous faisons
le constat que le mandat provisoire de 6 mois s'étend au-delà de 2 ans.
Pourquoi on reprochait M. Meba de quoi? De combine. J'ai écouté ça de la voix de monsieur Elom, de mon frère Elom.
Oui, c'est monsieur Elom.
Oui. Mais c'est de ça aussi on reprochait, c'est ça, de ça qu'on reprochait à Germain Meba. Que c'est des combinaisons, il faisait quoi. Maintenant on met quelqu'un par intérim ou bien délégation spéciale. Vous savez que c'est une vilaine expression dans notre pays ici, délégation spéciale. Ça ne rime à rien. Délégation spéciale, on nous a habitué ça avec des gens qui nous ont fait beaucoup du mal dans ce pays. Aujourd'hui, on amène ça à la Chambre du commerce. Bon, et voici, parce que ce que moi j'aurais appris, il y a quand même un décret qui serait pris en 2023, 13 février 2023, et qui modifie les tests d'application de la Chambre du commerce. Je ne sais pas, c'est sur cette base, je suis en train de rechercher, je reviendrai ici.
Oui.
C'est sur cette base que Mme Bito agit ou bien elle agit hors ce nouveau décret pris par le chef.
Il y a quelque temps, Mme Bito et ses deux vice-présidents avaient rencontré la presse à l'hôtel Sarakawa
pour parler des nouveaux tests.
Pour parler de, disons, des réformes qu'ils ont pu faire advenir.
Il faut dire
les décrets qui ont été pris en Conseil des ministres.
Oui, il faut dire aussi que
la prochaine étape.
En 30 secondes, oui. Il faut dire que ces réunions qui se multiplient à l'hôtel Sarakawa, ce sont des anomalies. Parce que l'administratif de l'hôtel Sarakawa, la chambre de commerce, a une belle salle de réunion entièrement rénovée sous l'ancien bureau. On n'a jamais fait de réunion là-bas. Tout est à l'hôtel Sarakawa parce qu'on facture. Donc la présidente de la chambre fait une facture à l'hôtel Sarakawa et l'administratrice. Elle va signer. Si on signe ici, on envoie le chèque là-bas. On prend les choses. Mais la salle là, qui est à l'hôtel à la
quand
chambre
là, mais on savait qu'elle est
administrative
de l'hôtel Sarakawa. Donc ça le problème ne se pose
pas. La tribune jette un petit pavé dans la mare. J'espère sincèrement que l'article de la nouvelle tribune fera réagir Madame Bito. Si elle le souhaite, notre plateau est disposé à l'accueillir parce que la vérité est chère, est sacrée pour nous au club de la presse. Il est midi, déjà 5 minutes, toutes nos excuses, mais nous marquons enfin notre pause.
93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti à présent. Nous nous connectons sur vous, les deux numéros que vous connaissez, 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Allô, déjà, premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Gérard.
Gérard.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît?
J'appelle de Niekonakwe.
Niekonakwe, nous vous écoutons.
Bien, j'ai comme l'impression que je suis le seul à voir certaines choses dans le pays.
Et c'est bien heureux.
Ah, mais je vois que finalement nous sommes beaucoup et je suis plutôt plus heureux.
Uh-huh.
De ce que Elon vient de dire tout à l'heure, je ne faisais que ces commentaires devant la TVT dimanche midi quand Madame Bito se tape la poitrine. C'est le ministre du Commerce qui m'a appelé, qui m'a donné toutes les cartes, qui m'a donné tous les... Mais beaucoup de choses, etc. Je suis expert comptable, j'ai un cabinet, je suis ici. Mais on écoutait les choses et on se rend compte, mais... Venir comme ça parler derrière un ancien chambre, président de chambre de commerce ou bien une ancienne équipe qui a été mise en place par une élection, on traite des opérateurs économiques de je ne sais pas quoi qui viennent prendre des salaires, etc., etc. Mais est-ce que c'est comme ça dans un pays, une responsable, on gère les choses ou bien on parle, je ne sais pas. Le chef de l'État est interpellé. Aujourd'hui, ce n'est plus le ministre du Commerce, puisqu'on a l'impression que il doit être au courant de ce qu'elle fait et de ce qui se passe. Vu qu'elle se tape la poitrine, le chef de l'État est interpellé. Et si rien n'est fait, on ne peut pas comprendre. 3 mois. Et nous tous, nous savions que quand on a dit 3 mois, c'était éternel. Bon, maintenant, 3 mois, on est allé à 6 mois. Mais ayez pitié de nous pour que ça soit au moins d'un an. Maintenant, on nous dit à chaque fois les textes, à chaque fois les trucs. Mais est-ce que c'est elle qui va rédiger cette affaire-là pour dire que ceci... Elle est venue sur votre plateau pour dire qu'on l'accuse de vouloir prendre la chambre. Mais pourtant, elle est très heureuse dans son rôle, hein, aujourd'hui, de présidente de chambre de commerce. En temps, la presse, certains médias faisaient des erreurs pour dire présidente de la chambre de commerce. Présidente, elle n'a jamais appelé la TVT pour dire n'écrivez pas ça. C'est nous qui appelions certaines personnes, certains médias, certains journalistes privés pour les interpeller que non, elle est présidente de délégation spéciale.
Merci l'ami Gérard. Je rappelle juste que Madame Bito a été nommée déléguée spéciale consulaire en janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui en mars 2023 et elle continue sa mission. L'auditeur bonjour. Suivant, bonjour.
Bonjour, ici.
Ici?
Oui.
Oui.
Voilà. Vous avez parlé de Bito. De Bito, qui a cumulé les postes aussi. Je sais qu'elle était à Abidjan, non? Sur un truc de finance.
Non, nous parlons. Et si? Oui. Et si? Nous parlons de Madame Bito comme déléguée spéciale consulaire de la Chambre de commerce.
Chambre de commerce.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle est à Sarakawa, Chambre de commerce, à Abidjan, dans les finances et tout ça là. Est-ce que c'est sérieux ce qui se passe dans ce pays? Moi, je suis opérateur économique aussi. On ne m'a jamais envoyé de courrier pour me demander, avant de nommer les gens, tous ceux qui sont passés là. On devrait, bon, je suis en fermeture provisoire, hein, mais on devrait nous envoyer du courrier. On ne l'a jamais fait dans ce pays. Parce qu'on gère la République comme une épicerie. Parce qu'on a trop duré. C'est tout simplement ça. Et puis voilà. Et c'est la même dame qui était passée chez toi à un moment donné pour nous dire que le président était trop gentil avec nous. Il devrait nous chicoter plus que ça.
Non, et c'est si, la même et dame. Si,
en gros, c'est ce qu'elle a dit.
Ok, restons dans le sujet du jour, s'il vous plaît,
femmes,
ici.
Les autres femmes du régime.
Merci beaucoup.
Vous voyez, il faut alterner, c'est tout.
Je savais que Essie allait en venir à l'alternance comme solution miracle. Vivement, il en sera ainsi un jour. Merci à Essie qui a succédé à Gérard. À présent, c'est monsieur, madame.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Seigneur Mava.
Oui, nous écoutons.
Oui, j'ai appris qu'à Dapao, il n'y a pas de feu tricolore.
Pas encore.
C'est grave. Je ne sais pas s'il y a un ministre là-bas parce qu'il voulait attirer leur attention. Quand Bouyoumé s'est désolidarisé pour être candidat, on nous a nourri qu'il n'a rien fait pour son village. Je ne sais pas que si on nomme les ministres pour construire leur village ou bien pour construire le pays. Alors c'est pour les avertir de se préparer, construire leur village. Les forages même, c'est récent, c'est nouveau. C'est nouvellement qu'on fait ça. Or, c'est une localité qui a encore les ministres dans le gouvernement. Ils n'ont qu'à faire les efforts pour sauver leur localité aussi. Hein? Puis ce qu'on nous a fait avaler, sur Abouyoumé Kodjo qui doit faire quelque chose pour son village en tant que ministre. Ce n'est pas le ministre qui doit construire un village. C'est la nation, une affaire d'État. Je vous remercie.
Je vous en prie. Le quatrième, bonjour.
Bonjour, mon dit-fils directeur de Haoutoui.
Papa Sibiti.
Bonjour tout le plateau.
Oui.
S'il vous plaît, est-ce que vous avez parlé de l'office et Ferdinand et l'autre aujourd'hui
on n'en a pas parlé comme ça ouvertement, mais nous les avons toujours en pensée.
Bon, pardon, je voudrais dire, vous savez, mon directeur et mes directeurs sur le plateau.
Oui.
S'il y a des ces problèmes-là, on ne peut pas, comment dire, philosopher sur les radios. Qu'est-ce que nous vous allons dire? Si nous avons nos droits dans la bouche de quelqu'un, c'est pardon, au ministre-là, au ministre de la chose. Et les ministres sont plus forts que les juges qui ont jugé, c'est de demander pardon. Pour que ces ministres disent, comme vous avez vu la FINA.
Mais Papa Zibiti, les confrères avaient déjà demandé pardon, mais ça n'a pas empêché qu'on les convoque de nouveau et qu'on les condamne. Allô, Papa Zibiti? Ah, il a dû partir, je ne sais pas trop.
Oui, Monsieur Kofi, qui se
suit? Oui, l'ami Kofi.
Oui, je sais quand même, vous félicitez, monsieur, ça, c'est tous les autres journalistes.
Merci.
Vous savez, ils pensent qu'en chassant les journalistes du pays, c'est fini. Je suis très heureux de constater qu'il y a encore d'autres Ferdinand, d'autres Isidore, qui vont continuer à dénoncer les mauvaises choses. Je suis très, très heureux. Il ne sert à rien de chasser les autres. Travaillons ensemble à améliorer la situation de notre pays. C'est le pays que nous avons en commun. C'est notre patrimoine. Nous n'avons aucun intérêt à détruire ce pays. Si nous dénonçons, c'est pour le bien-être de nous tous. Qu'ils ne s'acharnent pas sur nous autres, non. C'est notre avenir que nous défendons. Je suis très heureux pour vous. Félicitations quand même. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Justement, sur le sujet, il y a le confrère L'Intelligent qui titre aujourd'hui « Médias, rétrécissement de l'espace au Togo », un autre article « Entre inquiétude et frénésie, la presse est-elle en danger au Togo ?» Deux articles que vous lirez dans la colonne du confrère L'Intelligent. L'auditeur suivant, bonjour.
Ça, c'est mon garçon, mon fils. Oui. Une seconde. Je dis, il faut que les ministres qui fassent comme si là, ceux qui conspiraient là, il est sorti, il a vu que son fils est parmi eux. Il dit, oh, toi aussi, mon fils, je pardonne, maître de moi-même comme maître de l'univers, aux deux ministres là. C'est ce que je voudrais les prier de nous faire. Merci, ils n'ont qu'à pardonner.
Je vous en prie, Papa Sibiti, Fofana Changpana Yakubu. Le suivant, bonjour. Allô? Allô, l'ami? Allô? Ok, il est un peu distrait. Il y a un autre. Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui,
bonjour.
Oui.
C'est l'évangéliste Senghor. Comment vous allez?
Ah, comme vous nous écoutez.
Ah, que Dieu vous bénisse au plateau. Hein?
Merci.
Jésus, les disciples de Jésus avaient posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et Jésus leur a dit, dans la journée, 7 fois 70. Et nous devons savoir que 400 par jour. Moi, je le dis, je le réitère, que si tu ne pardonnes pas, hein, Dieu qui nous a créés nous tous, ne pense pas qu'un jour, il va te pardonner. Je voudrais parler de nos confrères, ou pas eux seulement, la population togolaise, que nous devons savoir qu'il y a un Dieu que nous devons penser qu'un jour nous irons vers lui pour rendre compte. Ne nous oublions pas, nous savons que c'est comme ça. Donc, toutes les actes que nous posons, M. Sass, nous devons savoir qu'il y a un retour. Et chacun de nous rendra compte à Dieu de la vie qu'il a menée sur la terre. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes, été créés par Dieu. Donc, nous devons savoir que le pardon est une priorité.
Merci beaucoup, l'ami évangéliste Senghor. Vivement que vos paroles atteignent qui de droit. Le tout dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Salam alaikum, monsieur.
Monsieur Waris.
Comment est-ce que vous allez, monsieur?
Nous écoutons.
Je salue tous les invités autour de vous.
Allô, il est parti. Alors, le tout dernier, vraiment, aujourd'hui. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sal.
Oui.
Maoko, depuis Campus.
Maoko, depuis Campus, à l'université de Lomé.
Oui.
C'est ça? Oui. Ok, nous vous écoutons.
Oui, c'est à propos de l'affaire de monsieur Ferdinand et ses consorts.
Oui.
Bon, moi, je pense que c'est pour encore divertir le peuple, hein, parce que
Enfin, il y a l'affaire de Covid-19 qui était en cours et tout le monde en parle de trop. Et donc, ils sont allés loin pour faire mettre un autre bébé pour que les gens parlent de ça.
Mm-hmm.
Donc, c'est en quelque sorte ça. C'est ça. Et c'est toujours comme ça, quoi. Ils font toujours ça. Quand ils voient que, bon, ça dévoile leur secret, et puis, bon, ils contournent et font ce qu'ils vont encore trop parler. C'est toujours ça, et on est dans okay. ça.
C'est votre façon de voir les choses.
Ils se tenaient au pouvoir comme ça.
Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui ont pu entrer en ligne. Nous revenons ici dans notre traditionnel tour. Pour votre conclusion et pourquoi pas votre carton de fin d'émission. Jean Legrand pour l'URNI, juste rappeler que le canal D et d'autres journaux sont revenus sur la CENI qui dernièrement a fait tester le matériel devant ses servir prochainement au recensement. Et canal D qui écrit par exemple: préparatif des élections, le matériel de recensement testé avec succès. D'autres, comme aura les vainqueurs qui annoncent le recensement électoral dans les semaines à venir.
Oui.
Maintenant, ta minute pour la conclusion.
Je n'ai pas grand-chose à dire. Sauf que bon, les Togolais espèrent toujours que le bonheur frappera à leur porte. C'est ce que je peux dire. Et moi, j'invite les uns les autres, tous ceux
qui... À ce niveau-là, Jean, tu permets, le bonheur ne se promène pas pour aller frapper à des portes, mais c'est chacun qui doit créer les conditions du bonheur.
Tout à fait. Quand je parle de bonheur frapper à la porte, c'est-à-dire qu'ils ont toujours l'espoir que demain sera mieux. Et par rapport, certains sont revenus sur l'affaire de nos confrères Isidore et puis Ferdinand, et d'autres sur la société. Moi, j'exhorte les uns les autres à juste respecter les textes que nous sommes donnés. Parce que moi, je dis, au-delà de tout, les individus, tout individu laissé à lui-même, a la propension à abuser du petit pouvoir qu'il a. Tant que nous n'avons pas des textes que nous astreignons à respecter, ça va être compliqué. Et ma foi, chacun viendra faire la loi et nous ne serons pas prêts de sortir de l'auberge. Concernant les cartons, je n'en ai pas. Je n'ai pas de carton. Bon appétit à tous les Togolais.
Merci. Elam Kossi?
Bon, je n'ai pas de carton, moi aussi. Mais c'est juste pour dire qu'en réalité, il faut que nous soyons dans une société juste. Vous comprenez? Quand vous-même, vous êtes à la tête ou bien vous faites la promotion d'une situation ou d'un truc, il faut que vous-même, vous soyez le modèle de ce que vous vendez. Et vous ne pouvez pas être auditrice de profession et faire des choses qui demandent à ce que vous-même, vous soyez audité. Donc, encore une fois, je crois que rien contre personne, mais tout pour que, véritablement, les choses se passent bien. Merci.
Je t'en prie, et l'homme, Michel?
Non, je n'ai pas de carton. Mais sauf que je voulais dire que si vous, comme nous sommes en train de parler du bonheur, le bonheur doit être partagé. Si vous avez votre bonheur et vous vous occupez de 9 malheureux, c'est bien. Mais si vous ne vous occupez pas d'eux, dans 10, 20 ans, vous serez le 10e malheureux.
C'était un peu distrait. Tu disais?
J'ai dit, hein?
Oui.
Si vous avez le bonheur, c'est bon. Mais il faut qu'il soit partagé.
Oui.
Si vous le partagez avec 10 malheureux, c'est bien. Mais si vous le gérez seul, dans 10, 20 ans, vous serez le 10e malheureux.
C'est fort, hein?
Ça, c'est une parole de chef canton. et c'est tout.
C'est tout.
Merci. Et Magloire Teko?
Ben, moi non plus, je n'ai pas de carton. Comme Michel l'a dit, cette émission, elle était typiquement sociale. On a parlé de comment faire pour que le Togolais puisse se sentir heureux d'appartenir à une nation. Et puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous l'avez vu, on a parlé de ce rapport des Nations Unies qui parle des indices de bonheur,
oui.
Qui classe le Togo 122e sur 137 pays. Alors, ce n'est pas reluisant, mais je crois qu'on peut mieux faire, on peut relever ce défi en faisant en sorte que, comme Michel a dit, le bonheur soit partagé. On sait que ce Togo, il est un petit pays, certes, mais Dieu l'a doté de richesses insurmontables. On en a assez chez nous. Alors faisons en sorte que ce petit qu'on a soit partagé par tous. Et vous savez, quand le Togolais serait heureux, il s'en fout de savoir qui est à la tête du pays. Il a fait combien d'années à la tête du pays. On a toujours tendance de le dire. Hier, le regretter, moi, Kadhafi, à part les politiciens qui s'égosillaient parce que, voilà, c'est un adversaire. Pour... Aucun Libyen ne se plaignait du cas Kadhafi. De moindre mesure, le cas gabonais avec le vieux Bongo.
Omar
Bongo. À part les politiciens, aucun Gabonais ne se plaignait de la longévité de M. Bongo au pouvoir. Même si politiquement il y a redit, l'essentiel c'est de permettre aux citoyens de vivre pleinement, d'être heureux dans leur propre pays. Et c'est le vœu que je nourris pour mon pays.
Merci, qu'il en soit ainsi. Je fais le constat que l'article de la Nouvelle Tribune sur la Chambre de commerce, même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour le commenter, ça a commencé à susciter des intérêts. Et je pressens que dans les jours à venir, nous pourrions revenir là-dessus et l'homme soit prêt à revenir sur ce sujet et bien d'autres. En tout cas, au club, là, après, nous serons heureux de recevoir toutes les personnes ressources pour que le plus grand éclairage possible soit fait sur la Chambre de commerce, ce qui se fait. Et là où on va aboutir bientôt avec les charges de Mme Bito et bien d'autres. Oui.
Non, on ne peut ne pas terminer cette émission sans souhaiter une bonne période de carême, c'est ça, à nos amis musulmans.
Justement, c'est par ça que je prévoyais aussi qu'on termine. Il n'y a pas de confrère, ni musulman, ni journaliste, ni technicien musulman aujourd'hui, mais tous les confrères qui nous écoutent. Depuis quelques heures, vous êtes entré dans le mois sacré du Ramadan. Vous savez mieux que moi ce que ce mois signifie dans votre foi, dans votre religion, et également pour les auditeurs. Eh bien, au Club La Presse, nous vous souhaitons vraiment un bon mois béni et nous souhaitons d'avoir le courage, la force de soutenir toutes les privations que ce mois vous impose, parce que l'objectif, à la fin, aussi bien vous les musulmans que les chrétiens qui sont également en carême, que chacun revisite vraiment sa foi, que nous soyons de meilleurs chrétiens, de meilleurs musulmans, et ainsi nous serons de meilleurs citoyens, qu'on soit chef d'État ou bien simple balayeur de la rue. Nous visons tous ce bonheur, comme en parlait tantôt Jean le Grand Polorini, revisitant notre foi, que Dieu nous assiste dans nos différents carêmes, et que surtout disposons également à écouter ce que Dieu nous enseigne. C'est fini pour aujourd'hui, mais le Club de la Presse vous retrouve demain vendredi à 11h. Et si Dieu le veut, Dieu le voudra, je sais que vous ne manquerez pas au rendez-vous de demain.